Ça va bien tout le monde? Ce matin, on commence une nouvelle série, puis on s'en va dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Puis laissez-moi introduire cette lettre-là d'une manière que vous l'avez peut-être jamais vraiment envisagée. La lettre de Paul aux Éphésiens, c'est l'histoire d'un gars qui est en prison. C'est l'histoire d'un gars qui est en prison, qui ne sait pas s'il va sortir vivant de cette prison-là ou s'il va sortir les pieds devant. Puis en même temps qu'il est en prison, mais il n'est pas vraiment en prison. Lorsqu'on étudie les lettres de Paul, vous savez que Paul a écrit une grande partie du Nouveau Testament, puis son sujet préféré à Paul, c'est quoi? L'Évangile. Et donc, lorsqu'on se promène d'une lettre à une autre, Paul va aborder la question de l'Évangile sous des angles différents. Lorsqu'on étudie, puis des fois, c'est bon de le souligner, parce que des fois, lorsqu'on lit Paul, on a l'impression qu'il dit toujours la même affaire dans toutes ses lettres. C'est pas vrai. Il nous montre vraiment que l'Évangile est un diamant de multiples facettes. Lorsqu'on étudie, par exemple, la lettre aux Romains, l'Évangile va être abordé beaucoup, beaucoup sous l'angle de la justification. C'est-à-dire que Paul va nous dire, à titre d'être humain, on est tous pécheurs, puis comme pécheurs, on est donc des injustes. On a été injustes envers Dieu, et Dieu qui est amour devait trouver un moyen de pouvoir nous justifier, nous déclarer justes. Et donc, l'Évangile est là pour nous déclarer juste, pour qu'on soit libéré de la juste colère, du juste jugement de Dieu qu'on méritait, étant donné que nous étions des injustes. Lorsqu'on arrive dans la lettre aux Éphésiens, il y a une autre facette, un petit peu, juste une nuance un petit peu différente. L'angle que Paul va aborder, c'est plutôt la question de l'esclavage. On est décrit, puis on va le voir ensemble, on va passer à travers tout Éphésiens, on est décrit comme des gens qui sont des fils de la rébellion. Des gens qui sont sous l'influence du diable ou du prince de l'air, du prince de ce monde, comme Paul va le décrire. Puis cette réalité-là fait de nous des esclaves. On est esclaves du péché. Et on est pris dans cette réalité-là. Et Dieu, qui voulait nous réconcilier avec lui, qui voulait qu'on puisse être réconciliés entre nous, a pourvu à un moyen pour cette réconciliation-là, cette libération-là de l'esclavage. Et donc ça teinte toute la lettre aux Éphésiens. Paul est en prison, puis en même temps qu'il est en prison, il est libre. À travers la lettre aux Éphésiens, Paul utilise une expression un petit peu particulière. Je vais juste vous lire. Elle revient au moins 5 fois à travers la lettre. On trouve ça dans le verset que je vais citer ce matin, c'est dans Éphésiens 2:6. Paul dit « Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ ». Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et Paul va parler à plusieurs reprises, 5 fois à travers la lettre. Donc, on va l'avoir au début, on va le retrouver à la fin. Il va parler de cet endroit-là que sont les lieux célestes. Et lorsqu'il parle de cet endroit-là, de quoi est-ce qu'il est en train de parler? Il est en train de parler en quelque sorte d'une dimension spirituelle. Un endroit qui est pas nécessairement juste le ciel où Dieu se trouverait avec ses anges puis tout ça, parce que il y a même des puissances maléfiques qui sont là. Mais on parle d'une dimension qui est bien réelle, qui est ni sur la terre, ni spécifiquement au ciel, ni dans le futur, mais qui est bien réelle, où réside Dieu, où réside toute puissance spirituelle. Et ce que Paul développe à travers la lettre, c'est que même s'il est en prison, en même temps, d'une manière mystérieuse et surnaturelle, il est assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Sa place est déjà là. Et tous ceux qui sont en Jésus-Christ, même si on doit continuer à vivre sur la terre, d'une manière mystérieuse et surnaturelle, c'est comme si ma place est là, ma place est réservée, mon nom est défendu, j'ai déjà accès parce que Christ est là et me prépare une place. Et c'est pas simplement une place pour l'avenir, c'est quelque chose qui a une dimension réelle et maintenant. Ce qui fait que l'apôtre Paul est en prison, il sait pas s'il va vivre ou s'il va mourir, il connaît pas la suite de son histoire, et pourtant il est en train de se soucier du salut des âmes autour de lui. Parce qu'il est un homme libre. Parce qu'en même temps qu'il est en prison, il est assis dans les lieux célestes en Christ. Et une des questions que cette série-là va vous poser, va vous amener à vous interroger, c'est est-ce que vous êtes en prison? Est-ce que vous êtes dans une prison? Est-ce que devant vos yeux, à tous les jours, dans votre expérience, il y a des barreaux qui sont là? Parce que Paul est en prison. Ça pouvait pas être plus réel que ça, plus physique que ça. Il était en prison, derrière des barreaux, sans connaître la suite de son histoire sur Terre. Ça pouvait très, très mal se terminer. La tradition nous a appris que ça s'est très, très mal terminé. Probablement pas cet emprisonnement-là, il y en a d'autres qui vont suivre. Est-ce que toi, tu es en prison? Paul, c'était des barreaux physiques. Peut-être que toi, c'est une relation, c'est une situation, c'est ta condition physique, c'est ton état de santé, c'est tes péchés. Puis tu es là, puis tu te sens complètement prisonnier, incapable d'avancer. C'est une des questions à laquelle cette série-là va t'appeler à réfléchir. Et donc, je vous invite déjà à chercher la face de Dieu alors qu'on va avancer dans cette série-là. Pour répondre premièrement à la question, est-ce que vous êtes en prison ou est-ce que vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ? Est-ce que vous vivez l'expérience de la vie chrétienne que vit l'apôtre Paul, qui est physiquement en prison, mais qui est entièrement libre en même temps? Ou est-ce qu'à chaque instant, à tous les jours, ce que vous voyez, c'est les barreaux de votre prison qui est devant vous, sans apprécier véritablement la grâce qu'on a en Jésus-Christ? Et la prière de l'apôtre Paul au début de sa lettre aux Éphésiens, parce qu'il a cette connaissance, cette compréhension de l'Évangile, sa prière pour tous les chrétiens, c'est qu'ils puissent connaître, comprendre, mesurer la puissance et la grandeur de l'Évangile de Jésus-Christ. Et c'est ma prière pour vous, c'est ma prière pour moi. Qu'on puisse prier les uns pour les autres afin qu'on soit entièrement conscient de cet état nouveau qu'on a en Jésus-Christ. Et ce matin, on va déposer ce fondement-là en regardant les bénédictions que nous avons reçues en Jésus-Christ. On va aller dans la prière ensemble avant d'écouter la lecture de la parole de Dieu. Père éternel, tu connais chacun d'entre nous ici dans cette salle ce matin. Tu nous connais intimement dans nos pensées, dans nos états d'âme, nos attitudes, Seigneur. Tu connais nos joies, nos peines, nos soucis, nos craintes, notre foi, notre incrédulité. Tu connais, Seigneur, notre prison. Tu connais, Seigneur, ce qui doit se produire en nous pour qu'on soit libre en même temps, qu'on continue à vivre sur cette terre où des fois il y a de la souffrance, il y a des obstacles, des difficultés. Et Seigneur, notre prière, c'est que tu nous donnes cette foi et cette connaissance de l'Évangile que possédait l'apôtre Paul. Cette requête-là est selon ta volonté, Père. Tu veux répondre à cette requête-là, tu veux nous dire oui, tu veux nous donner cette connaissance de l'Évangile qui donne cette liberté profonde à l'apôtre Paul. Père, tu nous as aimés, tu nous as choisis pour nous adopter. Seigneur Jésus, tu es venu, tu t'es sacrifié pour qu'on puisse être racheté et unis à toi, ô Dieu. Esprit Saint de Dieu, tu es venu comme un gage nous marquer, nous sceller déjà, nous assurant cet héritage extraordinaire avec toi pour l'éternité. Je te prie, Seigneur, de nous faire grandir dans notre connaissance, cette révélation-là intérieure, que les yeux de notre cœur soient éclairés, illuminés, afin que l'Évangile soit profond et réel dans notre expérience quotidienne. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter ensemble la lecture de la parole de Dieu.
Alors, le passage de ce matin va avoir lieu dans Éphésiens au chapitre 1. Et je vais lire les versets 1 à 23. Éphésiens, chapitre 1, versets 1 à 23, dans l'édition Louis II, 21, en fait. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu, dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour les mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de vos cœurs et que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force afin que nous croyions, envers nous plutôt qu'y croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ, quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
Merci Stéphane. Alors, la lettre aux Éphésiens. C'est une lettre que vous devriez connaître de Paul, puis maîtriser, je vous dirais, c'est peut-être celle-là. On va souvent dire que c'est la lettre aux Romains qui est la lettre la plus importante parce que c'est là qu'on a l'exposé le plus systématique de l'Évangile. Mais dans la lettre aux Éphésiens, on comprend l'Évangile, on comprend la grâce, on comprend qu'est-ce que c'est l'Église, puis quel est le rôle de l'Église sur la terre. Pourquoi est-ce qu'on reste ici après avoir découvert l'Évangile, après être sauvé? Pourquoi est-ce qu'on reste sur la terre? La lettre se divise en deux sections, d'accord? Chapitre 1, 2, 3, c'est la doctrine. C'est vraiment l'Évangile. On couvre le chapitre 1 ce matin. Et vous devez comprendre ça pour que tout ce que Paul va nous dire dans les chapitres 4, 5, 6 se tienne debout, qu'on soit motivé, disposé à appliquer ça dans nos vies. Donc, c'est vraiment le fondement. Le christianisme n'est pas une foi mystique à proprement dit. C'est pas une foi de mystère. Au contraire, l'apôtre Paul nous dit qu'on reçoit une révélation des mystères de Dieu. Il y a une connaissance des choses mystérieuses de Dieu qui a été donnée aux apôtres afin que nous puissions les connaître à notre tour. Et donc, la foi chrétienne, c'est quelque chose qui passe premièrement par une compréhension. Il faut bien sûr que Dieu nous attire. Et il y a quelque chose de mystérieux dans ça. Mais lorsque je viens à connaître Christ, je le connais avec mon intelligence. Et donc, les chapitres 1, 2, 3 sont importants. Certains d'entre vous n'êtes pas attirés naturellement par la doctrine, vous êtes attirés par la mise en pratique. C'est vrai, c'est bon, c'est correct, on est tous différents. Mais on avance et on fait des choses grandes dans notre vie, on prend des décisions difficiles dans notre vie sur la base de convictions. C'est ça qui fait que tu vas mourir au front pour sauver un pays. C'est sur la base d'une conviction. Il n'y a rien de pratique dans ça. T'es 1 sur 1 million qui vont mourir au front. Tu ne feras pas une différence à toi tout seul. Mais tu as une conviction, donc tu vas aller le faire. C'est ce que Paul veut faire dans les chapitres 1, 2, 3. Il veut nous donner des convictions. Et une des choses importantes que la lettre aux Éphésiens va développer, c'est que l'Église est sur la terre. On le comprend beaucoup mieux lorsqu'on arrive au chapitre 4, 5, 6. l'Église est sur la terre pour manifester, pour démontrer la puissance de l'Évangile. L'Église est laissée sur la terre parce que l'Évangile est puissant, vient nous transformer comme individus, nous réconcilier avec Dieu, nous réconcilier les uns avec les autres. Et donc, chaque Église locale sur la terre est une expression concrète pour une communauté de gens qui sont autour de l'Évangile de Jésus-Christ. Et peut-être que vous dites, « Ouais, mais il a peut-être pas réussi son coup. » Parce que l'Église n'est pas si extraordinaire que ça. Mais détrompez-vous. L'ensemble de nos fautes et de nos repentances et de nos réconciliations sont autant de manifestations de la puissance de l'Évangile. Et donc, Dieu savait très bien que l'Église serait ordinaire, comme on dit au Québec. Mais la puissance de l'Évangile fait qu'il y a un témoignage extraordinaire à travers des gens ordinaires comme vous et moi. J'aime cette citation de Richard Cokin. Chaque église locale est une manifestation terrestre d'une assemblée céleste. J'ai dit tantôt dans les lieux célestes, on va le développer un peu. D'une assemblée céleste, le corps, l'édifice, l'épouse de Jésus-Christ, le trophée de sa grâce et la démonstration de la sagesse de la croix à la face de ses ennemis dans les lieux célestes. Et donc, non seulement les gens qui nous entourent regardent l'Église et peuvent découvrir la puissance de l'Évangile, mais les puissances maléfiques qui s'opposent à Dieu, le diable lui-même, sont confondus parce que des êtres ordinaires comme vous et moi sont transformés par l'Évangile de Jésus-Christ et une communauté et des milliers de communautés naissent, portées comme des châteaux de cartes qui devraient s'effondrer, mais qui peuvent tenir debout parce que c'est la puissance de l'Évangile, c'est la grâce qui les tient debout pour tenir un beau témoignage à la gloire de Dieu. Ce matin, on va voir ensemble que réaliser combien Dieu nous a aimés dans la personne de son Fils, Jésus-Christ, est le plus sûr moyen de sortir de ta prison. Et vous allez voir au fur et à mesure qu'on va avancer dans la série comment ça vient transformer l'Église dans son ensemble et ensuite de ça transformer le témoignage de l'Église. Réaliser combien Dieu nous a aimés dans la personne de son Fils Jésus-Christ est le plus sûr moyen de sortir de ta prison. On va voir ensemble ce matin trois bénédictions parce que la lettre, après l'introduction, Paul va dire au verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Donc, Paul commence sa lettre en disant, « Tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ sont cachés en lui. » Et donc, tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ sont autant bénis les uns les autres de toute bénédiction spirituelle en lui. On a des appels différents. Hein? Certains d'entre vous, vous êtes appelés à être pour une saison dans votre vie à la maison avec les enfants, puis vous prenez soin des enfants. D'autres sont appelés actuellement à étudier puis à se préparer pour une profession, un métier. D'autres sont appelés à partir sur le champ missionnaire. Peut-être que ton appel, ta vocation à tous les jours, c'est d'être mécanicien puis faire le meilleur travail à tous les jours pour bien servir les gens puis glorifier Dieu à travers ton travail puis tes attitudes au travail. On a toutes sortes d'appels différents, spécifiques des fois pour une saison. Mais la bénédiction qu'on a en Jésus-Christ, nous sommes tous bénis en lui. Et ce qu'on va voir ensemble, les trois bénédictions spécifiques qu'on va voir ensemble ce matin, tous ceux qui sont cachés en Jésus-Christ parce qu'ils ont placé leur foi en lui, sont tout aussi richement bénis. Et la prière de l'apôtre Paul est toute simple. Sa prière, c'est « Seigneur, je t'en supplie, il faut que l'Église saisisse la richesse des bénédictions qu'elle a reçues en Jésus-Christ. » Afin qu'alors même qu'ils traversent des obstacles, des difficultés, alors même qu'ils sont peut-être dans une prison dans leur quotidien, dans leur réalité quotidienne, qu'ils soient comme moi, transportés d'espérance, remplis d'espoir qui transcendent ces circonstances-là. Difficile! Paul était en prison! Ça veut dire qu'il était battu. Ça veut dire qu'il était privé de liberté. Ça veut dire qu'il était déshonoré. Ça veut dire qu'on lui manquait de respect constamment. Lui qui est un citoyen romain, il n'était même pas traité selon la loi. Et puis pourtant, il est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Trois bénédictions qu'on va voir ensemble ce matin, où Paul, à travers les 14 premiers versets, va répéter 11 fois « en Jésus-Christ », « en lui », « en Christ ». Les 14 premiers versets de la lettre aux Éphésiens, c'est une phrase. OK? Paul prend son souffle, il crée une phrase, pouf, point. 14 premiers versets. À la lumière des 14 premiers versets, il va dire « maintenant, voici ma prière à la lumière de ça ». Et donc, on a trois bénédictions qui sont présentées dans ces 14 premiers versets-là. Je les résume comme ça. On est choisi pour l'adoption par le Père. Je crois que c'est les versets 4 à 6. Choisi pour l'adoption par le Père. Deuxième bénédiction, racheté pour être uni, pour l'unité avec Dieu puis entre nous, par le Fils, le Père, le Fils, puis le Saint-Esprit. Troisième bénédiction, marqué pour l'héritage par l'Esprit-Saint. Donc, trois bénédictions, choisi pour l'adoption, racheté pour être uni, et puis marqué pour l'héritage qui nous est réservé. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont tous les trois à l'œuvre. Et chaque chrétien a reçu ces bénédictions-là. Une des premières choses qu'on doit réaliser lorsqu'on veut saisir ces bénédictions, on doit réaliser que bien avant que tu aies choisi de suivre Jésus-Christ, Dieu le Père t'avait déjà choisi. Vous savez, dans notre expérience à nous, c'est mêlant. Hein? Tu entends parler de l'Évangile, puis à un moment donné, tu dis « OK, je crois ». Puis tu as vraiment conscience qu'il y a une démarche personnelle dans ça. Je crois, je décide de croire. Mais en même temps, la majorité d'entre nous, on a conscience que Dieu était à l'œuvre aussi avant ça, dans cette foi-là. Dieu était, on voit à travers notre parcours, à travers des gens qui ont été placés sur notre route, à travers des convictions qui se sont formées dans notre cœur. Et donc, longtemps avant que vous ayez choisi de suivre Jésus, le Père vous avait déjà choisi. Il y a quelque chose de complexe dans cette idée-là qu'on est élu, qu'on est choisi. Puis peut-être que ça vous trouble, puis vous dites, ouais, mais ça a plein d'implications. Ça veut dire qu'il a choisi des personnes. Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'enorgueillir de ça? Est-ce qu'on est différent des autres? Je vais pas rentrer dans tout le débat ce matin parce que Paul le fait pas ici. Paul le fait davantage dans l'épître aux Romains. Mais les Écritures sont claires, vous avez été choisis. Jean 6, 37 à 39, c'est Jésus qui parle, qui dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » Tous ceux que le Père me donne viendront au futur à moi. « Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Et des fois, on s'enfarge dans les implications de tout ça, puis là, on dit, OK, je ne sais pas si je crois à ça, mais je vais être concret avec vous. Chaque fois que vous priez pour le salut d'un de vos proches, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Chaque fois que vous priez pour le salut d'un de vos proches, vous êtes en train de déclarer que cette personne-là ne deviendra pas chrétienne sans l'intervention de Dieu. Amen? C'est vrai? Priez pour le salut de vos enfants, j'espère, non? Vos proches, votre famille, vous les aimez? Priez pour eux. Priez pour le salut des gens de Longueuil. Pourquoi on prie si ça vient juste, si c'est juste l'agent humain qui fait la différence? C'est parce que nous savons très bien que si nous sommes chrétiens, c'est par la grâce de Dieu. C'est pas parce que j'étais plus cool, plus hot, plus intelligent, plus brillant que mon voisin, puis hey, moi je savais que je pouvais pas refuser un beau cadeau comme ça, mais l'autre c'est un gnochon, tu sais. Il est trop à terre pour saisir le pot. Non! Tous perdus et Dieu intervient dans sa grâce. Donc, chaque fois que vous êtes en train de prier, vous êtes en train de déclarer qu'il y a un intervenant divin. Puis là, après ça, on s'en va vers l'élection. Puis là, on lutte avec tout ça, tu sais. Puis il y a quelque chose de mystérieux dans ça. Mais laissez-moi l'illustrer comme ça. Admettons que t'es le gars le plus laid de la cour d'école. Tu sais, t'es un laideron. T'es vraiment moche. T'es vraiment, vraiment pas beau. Puis t'es dans la cour d'école, puis tu sais, tu vis cette réalité-là tout le temps dans ta tête. C'est juste à ça que tu penses. T'es le gars le plus laid de l'école. Puis ça donne que dans ta cour d'école, il y a une belle petite fille qui est vraiment, vraiment chouette. T'sais. C'est comme tout l'opposé de toi. Jamais même t'oserais rêver, imaginer que tu pourrais être avec cette fille-là. Jamais tu vas penser à ça. Mais à travers des circonstances incroyables, il se donne que cette fille-là commence à s'intéresser à toi, puis à se lier d'amitié avec toi, pour découvrir en fin de compte qu'elle est en amour avec toi. On en a des histoires comme ça, hein, des gens qui disent, je sais pas pourquoi elle m'a marié. Je comprends pas, tu sais, qu'est-ce qu'elle a... Honnêtement, elle aurait pu taper tellement mieux, mais je sais pas pourquoi. Mais ça, c'est l'histoire du choix que Dieu a fait avec toi. T'étais le plus laid de la cour d'école, je te le dis tout de suite. T'étais pas le plus beau. Puis il n'y a pas d'explication autre que je ne sais pas pourquoi, mais il a décidé de m'aimer. Parce qu'il est bon, puis il est génial, puis il est merveilleux. Et ce que Paul nous dit, c'est qu'on a été choisi pour être adopté. On a été choisi pour être avec lui. Je ne sais pas comment ça fonctionne tout ça. Je sais juste qu'il a été bon, puis il a décidé de faire de moi son enfant. Il a décidé de me faire rentrer dans sa famille. Une belle illustration de ça, c'est que lorsque je m'en vais annoncer l'Évangile, je l'ai dit tout à l'heure dans le cours, quand je m'en vais annoncer l'Évangile, je m'en vais avec un espèce de détecteur d'élus. C'est ça que je fais. Parce que je sais que les gens ne vont pas devenir chrétiens juste par eux-mêmes. Il faut que Dieu intervienne. Fait que quand j'annonce l'Évangile, je me promène avec pas un détecteur de métal pour chercher des pièces de monnaie, mais un détecteur d'élus. Puis j'annonce l'Évangile, puis à un moment donné, le même message que j'annonçais à lui, à elle, zéro résultat, pouf! Il y a comme quelque chose qui commence à pousser, un émerveillement. Ce qui scandalisait les autres, ce qui scandalisait peut-être il y a 2 semaines, tout d'un coup devient comme, oh! C'est malade qui nous a aimés comme ça! Moi! Puis là, je vois quelque chose qui commence à germer. C'est l'œuvre de l'Esprit qui est en train de se produire. C'est ça, annoncer l'Évangile. Puis j'ai été choisi pour l'adoption. J'ai été fait un fils de Dieu. Peut-être que vous allez vous rappeler, la semaine dernière, dans le message, on parlait de la résurrection de Christ, puis Marie de Magdala va au tombeau, puis là, le tombeau est vide, puis elle est en train de pleurer, puis Jésus apparaît, mais elle ne sait pas encore que c'est Jésus, puis elle pense que c'est le jardinier qui s'occupe du jardin, puis à un moment donné, hein, qu'est-ce que Jésus va faire? Il l'appelle par son nom, Marie. Elle avait déjà entendu sa voix, mais lorsqu'elle l'a entendu dire son nom, comme elle l'avait déjà entendu dire son nom, peut-être des dizaines, peut-être des centaines de fois, boum, ses yeux se sont ouverts, elle a réalisé, c'était Jésus ressuscité. Puis là, Jésus dit quelque chose, Jean 20, 17. « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Retiens-moi pas ici, je dois aller vers mon Père. » Mais il ajoute ceci, « Mais va trouver mes frères, les disciples. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Avec la résurrection de Jésus-Christ, est devenue possible une réelle adoption pour toi et moi. Et donc, quand je réponds à l'Évangile, je réalise que Dieu m'a aimé avant la fondation du monde. Je réalise que Dieu m'a aimé avant Genèse 1:1. Avant tout ça, je ne sais pas pourquoi, moi qui l'aideron de la cour d'école, Dieu m'a aimé. Et il m'a non seulement aimé, il m'a aimé pour que je fasse partie de sa famille, que je sois adopté dans sa famille. Le Père m'a aimé pour que je puisse vraiment l'appeler papa. Puis quand Jésus est mort sur la croix puis il est ressuscité d'entre les morts, à partir de ce moment-là, il y a une nouvelle réalité qui a été rendue possible. C'est que toi et moi, on peut s'entrer dans une communion personnelle avec notre Père céleste. Et Jésus va dire, « Demandez-moi pas à moi, demandez-lui à lui. C'est votre Père comme c'est mon Père maintenant. » G.I. Packer, qui a écrit un des plus grands classiques contemporains de la littérature chrétienne, « Connaître Dieu », a écrit ceci. « Vous résumez toute la théologie du Nouveau Testament, si vous la décrivez comme la connaissance de Dieu, comme étant notre Père. La paternité de Dieu pour moi, si je comprends ça vraiment, Packer dit, tu viens de résumer tout le Nouveau Testament. Parce que jamais tu vas trouver ça nulle part ailleurs, cette paternité-là qui nous est offerte de la part de Dieu en Jésus-Christ. Si vous voulez juger, c'est Packer qui continue et qui dit, si vous voulez juger combien de personnes comprennent le christianisme, regardez attentivement ce qu'ils comprennent du fait que Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants. Je termine avec ce premier point-là, avec cette super belle citation-là, puis vous allez voir certains d'entre vous dans votre cœur, vous allez résister à ça. Mais restez avec moi jusqu'à la fin. C'est encore Richard Culkin qui écrit « Quand nous allons arriver au ciel, Dieu va nous souhaiter la bienvenue. Et nous pouvons imaginer qu'il dira quelque chose comme ceci. Je suis tellement content de t'accueillir dans ma maison, enfin. Parce que j'ai choisi de te sauver pour mon Fils avant même d'avoir créé le monde. J'ai envoyé mon Fils mourir sur la croix pour toi. J'ai organisé l'histoire pour m'assurer de ta naissance et protéger ta vie. J'ai envoyé quelqu'un pour t'annoncer l'Évangile. Et j'ai ouvert tes yeux pour que tu reconnaisses en mon Fils Jésus, ton Sauveur, ton Seigneur. Je t'ai porté quand tu étais faible dans la foi. Je t'ai retenu quand tu tentais de te sauver dans ta stupidité, dans ta folie. Et enfin, je peux t'accueillir dans la maison. C'est tellement bon de te voir. Je t'ai tellement aimé pendant si longtemps. Et tout ceci, c'est à la gloire de Dieu. On n'est pas en train de placer l'être humain au centre de l'histoire de l'univers comme si on était plus important que Dieu. Mais c'est parodier l'Évangile que de ne pas saisir à quel point Dieu nous a aimés en Jésus-Christ. Il nous a choisis d'avance. Et ça, c'est l'amour du Père pour nous. On a été choisis pour être adoptés par le Père. Et pour que ça devienne possible, il a fallu que Christ vienne verser son sang pour nos péchés afin de nous racheter puis qu'on soit unis avec Jésus-Christ. Deuxième bénédiction, racheter pour l'unité par le Fils. Éphésiens 1:7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui, nous avons la rédemption, le rachat par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Pour comprendre de quoi Paul est en train de parler ici, il faut comprendre un peu. La meilleure illustration dans la Bible, c'est comment Dieu a sauvé Israël dans l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte, ils étaient perdus, ils étaient esclaves. Ils n'allaient pas sortir de là. Ils étaient sous la domination du peuple le plus puissant de l'époque, d'accord? Et puis Dieu est intervenu et il leur a fait grâce, il les a délivrés. Et l'action la plus forte de cette opération de sauvetage-là, c'est lorsqu'un agneau a été immolé. Dieu allait intervenir et juger la nation égyptienne. Et qu'est-ce qui allait faire la différence entre un foyer qui allait être frappé et un foyer qui n'allait pas être frappé par le jugement de Dieu? C'est pas la mesure de la foi des gens, hein? Tu pouvais être un Israélite qui sacrifiait un agneau, qui mettait du sang sur les linteaux de la porte, qui avait zéro foi et qui se disait « Qu'est-ce qu'on a à perdre? Il va frapper l'Égypte. » Ou tu pouvais en être un autre qui était comme « Alléluia! Jésus va nous sauver ce soir! » Pas Jésus, il ne connaissait pas. Ça ne change rien. Tu le faisais, tu étais sauvé. Ce n'est pas à la mesure de ta foi que tu étais sauvé, c'est à la mesure de l'œuvre de Dieu. Et donc, c'est la même chose pour nous. Pour que nous puissions être rachetés, il a fallu que Christ vienne. Il a fallu que Dieu le Fils vienne s'incarner sur la terre, qu'il vienne mourir sur la croix pour nos péchés, afin que nous soyons rachetés. Puis Paul dit, quand tu saisis la mesure de cette grâce-là, puis Paul développe quelque chose un tout petit peu plus loin après. Il explique que ça a été fait afin de réconcilier toutes choses. Écoutez bien les versets 8 à 10. Ça va être un peu technique, d'accord? Mais en même temps, c'est super important pour saisir la puissance de l'Évangile. Versets 8 à 10. Que Dieu a répondu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, afin, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution quand les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Cette semaine, j'étais avec une dame, puis on parlait un petit peu de l'Évangile ensemble, on discutait de l'Évangile, puis elle me coupait littéralement la parole à toutes les 15 secondes quasiment pour me dire « Yannick, ça va mal! Ça va mal, c'est fou, le monde est fou, la terre est folle, regarde ce qui se passe. Puis là, elle me racontait toutes sortes de choses qui se passent à l'international. Elle était comme obsédée par le fait que ça va mal. C'est vrai. C'est vrai que ça va mal. C'est vrai que c'est fréquent. C'est vrai que c'est inquiétant. On sent qu'il y a quelque chose sur le plan cosmique qui va pas bien. C'est vrai. On le vit dans notre cœur. On le vit dans nos relations, on le vit sur le plan de notre pays, on le vit à l'international, on le vit à travers les médias. Ça en vient tellement lourd qu'on veut juste changer de poste, aller écouter une télésérie sur Netflix pour s'endormir le cerveau. C'est vrai! Mais ce que Dieu est en train de dire ici, c'est que le remède, ce que Paul est en train de dire, c'est que le remède de Dieu pour réconcilier Dieu avec l'univers, c'était Jésus-Christ. À partir de la chute, à partir du péché, Dieu a jugé toute l'humanité. Et l'apôtre Paul va jusqu'à nous dire que toute la création en souffre. Dieu est en jugement contre toute l'humanité à cause du péché des hommes. Et comment est-ce que Dieu va se réconcilier avec l'univers, avec les hommes? Comment est-ce qu'il va le faire avec toi et moi? Comment est-ce qu'il va amener cette unité-là? Il va le développer plus loin dans Éphésiens. Vous allez voir, c'est pour ça que je vous dis, quand l'Église est en train de vivre l'Évangile ensemble, malgré nos chicanes, nos conflits, tout ça, puis on se réconcilie avec l'Évangile de Jésus-Christ, on est en train de démontrer cette unité-là que Dieu a rendue possible en Jésus-Christ. Et donc, non seulement on a été rachetés, mais on a été rachetés pour être réconciliés avec Dieu. Non seulement on a été rachetés, mais on a été rachetés pour être réconciliés entre nous. Et ça, c'est un spectacle de la grâce de Dieu, de la gloire de la grâce de Dieu devant tous les hommes qui peuvent observer ça. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ pour manifester cette unité-là. Donc, jusqu'à présent, ce qu'on a dit ensemble, c'est que Dieu t'a choisi. Si tu as cru en Jésus-Christ, Dieu t'a choisi, tu as été adopté par le Père. Et la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que des fois tu réfléchis encore en orphelin? Est-ce que des fois tu penses encore en orphelin, alors que tu as été choisi avant la fondation du monde pour être adopté en Jésus-Christ? Tu as été racheté par Jésus-Christ, tu as été libéré de tes péchés, tu as été pardonné par la richesse de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. L'image que Paul va développer tranquillement, c'est cette image où on était libéré de cette prison, de cet esclavage. Et donc, la réalité, c'est que avant d'être racheté, l'idée de rachat, c'est comme libérer des otages. Et donc, avant d'être racheté, on est dans une prison. Ma prison, c'est ma rébellion, ce sont mes péchés. Et lorsque Christ vient, la porte de ma prison est ouverte. Et il n'y a plus personne qui peut la fermer, cette porte-là. Je suis libéré. Mais des fois, lorsqu'on ne saisit pas bien l'Évangile, des fois, lorsqu'on comprend pas bien l'Évangile, on oublie la richesse de cette grâce qui a été manifestée, puis il y a un écart, on pêche, il y a quelque chose qui va pas. Puis là, je deviens confus, puis je me retrouve plus. Mais des fois, vous savez ce qu'on fait? Comme un esclave qui aurait été esclave pendant la majorité de sa vie, des fois, on s'en retourne dans notre cellule. On s'en va s'asseoir dans la cellule. La porte est même plus fermable. J'ai été sauvé par Christ. Mais je m'en vais m'asseoir là comme si c'était un refuge pour moi de retourner dans mes anciens esclavages. C'est quelque chose de rassurant pour moi, c'est comme un terrain connu. J'ai oublié pendant un instant que j'ai été entièrement libéré. Est-ce que ça t'arrive des fois? Tu t'en vas te réfugier dans ta vieille cellule parce que tu étais esclave du péché? Parce que tu oublies qui tu es, comment tu as été libéré? Il y a quelque chose de rassurant dans ça. C'est ça que je suis parce que tu as oublié pendant un instant qui tu es en Jésus-Christ. Racheté, pardonné. Est-ce que parfois, tu rentres dans une espèce de pattern où tu as le sentiment qu'il faut que tu performes pour que le Père te regarde favorablement? Tu sais, tu fais quelque chose, puis là, tu regardes, tu te dis, c'est bon. Ou d'autres fois, tu performes, puis là, tu te dis, ouf. Là, tu as peur qu'il te regarde défavorablement. La vérité, c'est que lorsque notre Père nous regarde, il nous regarde toujours à travers l'œuvre de Christ. Il te regarde toujours à travers le sang de Jésus-Christ, à travers son œuvre. La porte de ma cellule ne peut plus être fermée. Et donc, j'ai pas à agir comme chrétien en cherchant la faveur de Dieu. J'ai déjà toute la faveur de Dieu en Jésus-Christ, en lui. Et il y a rien que je peux faire, qui va m'être plus favorable ou moins favorable. Parce que toute la faveur qu'il m'a donnée, il avait choisi de me la donner avant la création du monde pour que je sois adopté. Et cela a été rendu effectivement possible par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Il n'y a rien que tu peux faire pour être un bon chrétien qui va faire que Dieu va t'être plus favorable. Il n'y a rien qui va faire que Dieu va t'aimer plus parce que tu performes bien. Tu n'as jamais à regarder à Dieu en disant, je ne sais pas s'il est fier de moi aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'autrement, vous allez prendre du temps dans la Bible pour avoir sa faveur. Autrement, vous allez dire, « Hey, je pense qu'il faudrait que j'aille annoncer l'Évangile à du monde. Hein? Je suis un chrétien, après tout. » Aïe, va-t'en dans ta Bible. Va-t'en pas annoncer l'Évangile. Il est tellement poche, ton Évangile, aujourd'hui. Va-t'en plonger les regards dans l'Évangile jusqu'à temps que ton cœur réalise que tu peux rien faire pour avoir plus la faveur de Dieu. Tout a été acquis en Jésus-Christ. Et je sais avec certitude que c'est vrai pour moi parce que j'ai été marqué. J'ai été marqué par un fer rouge. Peut-être que vous n'aimez pas les tatous, ça c'est votre histoire à vous, chacun ses convictions. Mais vous savez quoi, si vous êtes chrétien, vous avez été tatoué. Vous avez été tatoué dans l'âme. Sur votre âme, il y a un tatou qui a été gravé là, brûlé là par le Saint-Esprit. Parce que vous avez été marqué au fer de l'Esprit dans l'âme, qui est votre assurance, qui est votre garantie que vous êtes héritier. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans les versets 11 à 12. « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » C'est lui qui a décidé ça, bien avant la fondation du monde. C'est mystérieux. J'étais le plus laid de la cour d'école. La plus belle fille m'a aimé. Amen. Je vais juste être content. Puis elle m'a marié. Puis dans mon cœur, j'ai été marqué au fer rouge de son amour. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'a été donné comme un gage, une garantie, un dépôt qui m'a été fait. Et donc, j'ai l'Esprit de Dieu qui habite en moi et qui me rappelle sans cesse que je suis un enfant de Dieu. En lui, vous aussi, après avoir attendu, verset 13, entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. La merveilleuse assurance du salut de quiconque, dit Richard Cawkin, croit dans l'Évangile, est l'élection irréversible du Père, la rédemption irréversible accomplie par le Fils et l'habitation irréversible de l'Esprit-Saint en nous. Paul est en prison aux yeux des hommes. Il est pauvre, il est misérable, mais il connaît son héritage. Alors même qu'il est en prison, il sait qu'il est riche. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prêche la parole, il annonce l'Évangile. Il est en prison, puis il est en train d'annoncer l'Évangile. Il y a des personnes autour de nous qui sont prisonniers pour de vrai. Ils sont esclaves du péché, fils de la rébellion. Ils ne connaissent pas l'Évangile de Jésus-Christ. Et Dieu nous a donné un message pour les libérer de leur prison. Est-ce qu'on va annoncer ce message-là? Paul me dit que pour que je puisse l'annoncer, il faut premièrement que je réalise la beauté de l'Évangile de Jésus-Christ. Il faut que je réalise que Dieu m'avait choisi, que Dieu m'avait aimé, pas sur la base de mes mérites, mais Dieu m'avait aimé avant même que j'existe, pour que je devienne son enfant. Que Christ est venu afin que ce soit effectivement possible. Il est venu mourir sur la croix pour mes péchés, afin que je sois réconcilié avec Dieu, afin qu'on soit réconcilié les uns avec les autres. Et que j'ai été marqué au fer de l'Esprit. Je porte en moi un gage de l'héritage à venir. J'ai invité les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Hier soir, j'ai écouté un film avec Esther. Bon film d'ailleurs, si vous voulez l'écouter. Là. Silence de Martin Scorsese. Je ne sais pas si certains l'ont vu. Super long. Il faut aimer les films longs. Super lent, 2h40. Très, très lent. Mais c'était un film touchant. En gros, c'est quoi? C'est l'histoire de missionnaires catholiques, des jésuites, qui, au 17e siècle, allaient annoncer l'Évangile qu'ils connaissaient, autant qu'ils pouvaient le connaître, allaient annoncer l'Évangile au Japon. Et c'était totalement illégal comme religion. Le christianisme était totalement illégal. Et donc, c'est l'histoire de missionnaires qui vont là puis qui essaient d'annoncer ça. Puis on est constamment dans ce que vivent ces gens-là, dans leur souffrance. Les catholiques là-bas qui sont underground, des Japonais qui se sont convertis, puis qui sont cachés, puis qui sont persécutés, mis à mort. Et puis des missionnaires qui vont là puis qui eux-mêmes vont être maltraités. Puis toutes les manœuvres des autorités pour pouvoir faire disparaître cette religion-là qui s'en vient bouleverser potentiellement le Japon. Puis honnêtement, c'est bouleversant comme film. Quand tu termines le film, tu es là et tu dis, tu as le goût de prier pour les chrétiens qui sont persécutés partout dans le monde. Il y en a plein, il y en a des milliers actuellement qui sont persécutés. Il y a des gens qui meurent pour leur foi. Il y a des chrétiens qui se réunissent aujourd'hui de manière secrète, cachée, sur la terre. Il se cache pour faire ça. On a des missionnaires que les églises évangéliques supportent, dont on ne peut pas faire les rapports publics. Pourquoi on ne peut pas faire les rapports publics? C'est parce que ça serait juste dire aux autorités de ces pays-là, c'est un missionnaire, allez le zigouiller. Et donc, tu as le goût de prier pour eux. Mais en même temps, ce film-là, c'est une perspective sur l'histoire de la mission catholique, d'accord? C'est pour ça que c'est aussi intéressant de voir le film. Tu réalises que la foi que ces prêtres-là peuvent donner, c'est une foi qui est très, très, très mystique. D'accord? Ils vont annoncer, en gros, le message de l'Évangile, mais en même temps, tout est rituel. Parce que la messe qu'ils font, c'est une messe en latin. Parce que ils peuvent pas leur donner la Bible, il y a juste le prêtre qui peut lire la Bible. Donc, tout est concentré sur un rituel avec le prêtre qui est en train de consacrer l'hostie, puis tout devient très, très, très religieux. C'est des objets. Chacun de ces Japonais-là qui va croire veut avoir un objet qui va garder en lui. Puis s'il perd ça, c'est comme s'il perdait tout. Puis si le prêtre n'est pas là pour leur pardonner leurs péchés, ils sont damnés. C'est leur compréhension de l'Évangile. Fait que tu termines cette histoire-là, puis tu dis, mais quel pauvre compréhension de l'Évangile de Jésus-Christ. En voyez-vous, l'apôtre Paul termine cette section-là, ce premier chapitre-là dans Éphésiens, en disant, voici ma prière pour vous. Je prie pour chacun d'entre vous, afin que vous compreniez vraiment la richesse de l'espérance, la puissance abondante que Dieu a manifestée pour que vous soyez sauvés. J'écoutais le film et je me disais, si seulement on leur avait donné vraiment l'Évangile, si seulement on leur avait donné la parole de Dieu, si seulement ils avaient pu plonger les regards dans la parole de Dieu, il n'y a plus de prêtre. T'en as rien à cirer qu'il n'y ait plus de prêtre. T'as l'Évangile, tu peux répandre l'Évangile. Tu t'accroches pas à une petite croix en bois comme si c'était ça qui te sauvait. Mais comme Église, écoutez-moi les frères et sœurs, comme Église, lorsqu'on plonge pas les regards dans la parole, lorsqu'on n'apprécie pas la richesse, la profondeur de l'Évangile, puis qu'on s'en retourne s'asseoir dans notre cellule comme si on était encore esclave, ou on pense à tous les jours comme si on était des orphelins, comme si Dieu nous aimait pas, comme s'il fallait gagner la faveur d'un Dieu sévère envers nous. C'est une foi pauvre, une compréhension triste de l'Évangile. Et on a besoin de plonger les regards dans la lettre aux Éphésiens. Cette semaine, prenez le temps de relire le chapitre 1. Prenez le temps de le lire et de le relire. Allez identifier chaque fois qui est mentionné en lui. Et allez prendre la mesure de ce qui est là. Posez-vous la question, est-ce que je pense comme ça? Est-ce que je vis comme ça? Parce que si tu es chrétien, tu as l'Esprit Saint en toi, qui veut te donner une illumination des yeux de ton cœur. C'est ça la prière de Paul, hein? Paul, il dit, je prie afin que les yeux de votre cœur soient illuminés, s'ouvrent, pour que vous saisissiez c'est quoi la grandeur de l'Évangile. Quelle est la grandeur de l'amour de Dieu? Quelle est la richesse des bénédictions qu'on a en Dieu? Et donc cette semaine, si tu vis comme un orphelin, puis tu penses comme un orphelin qui n'a pas de père, retourne là, puis va méditer ça. Si tu te comportes comme un religieux qui doit performer pour avoir les faveurs de Dieu, retourne là. Si tu t'en retournes t'asseoir dans ta petite cellule où tu étais comme en sécurité avec tes anciens péchés, puis tu dis « je suis pris là », puis dans ta tête, la porte est encore fermée. Elle est plus fermée, cette porte-là. Parce que tu as été racheté par le sang de Christ. Et peut-être que tu as un frère, une sœur que tu peux aller voir cette semaine. Parce que tu sais que il vit avec un évangile qui est comme tronqué, juste un petit bout de l'évangile. On devrait rentrer au ciel par la grâce de Dieu. Mais dans son quotidien, c'est pas là. Voyez-vous, Paul écrit la lettre aux Éphésiens puis il leur dit « Je prie pour vous ». C'est correct hein, d'aller voir un frère, une sœur et dire « Je prie pour toi. Je prie pour toi. Moi, je prie pour moi. Je prie pour moi. Je prie pour que je saisisse la beauté de l'évangile. Mais je prie pour toi. Je veux que tu le saches. » Paul le faisait constamment. Peut-être que tu dois faire ça cette semaine. Peut-être que tu dois juste prier pour quelqu'un qui a besoin de ça. Et vous comprenez que si nous, comme chrétiens, on a besoin que les yeux de notre cœur soient illuminés pour saisir la richesse de l'Évangile, le monde autour de nous, si ce matin, tu n'es pas chrétien, tu n'as pas placé ta foi en Jésus-Christ, est-ce que tu vois le trésor qui t'est offert? Pourquoi est-ce que tu voudrais continuer à vivre sur la terre comme un orphelin, alors que Dieu veut t'accorder cette faveur? Et si l'Esprit de Dieu est en train de toucher ton cœur par son Évangile, c'est parce que Dieu t'a choisi et est en train de t'attirer. Ne résiste pas plus longtemps. Accepte la grâce en Jésus-Christ. On va prier ensemble. Père éternel, nous voulons t'adorer ce matin parce que tu nous as choisis, tu nous as aimés. Tu nous as aimés d'un amour éternel. Avant même que la terre ne soit créée, avant même que l'univers ne soit créé, tu nous avais choisis pas en vertu de nos mérites, pas parce qu'on était beau, fin puis capable. Tu nous as aimés d'un amour inexplicable, immérité, pour faire de nous tes enfants, Seigneur. Et Seigneur, on veut te confesser que souvent c'est difficile de vivre comme des fils et des filles de Dieu. On oublie ça, on pense comme des orphelins sans père. Souvent, Seigneur, on oublie qu'on a été rachetés en lui, en Jésus-Christ, pas par nous-mêmes, Seigneur. Seigneur, souvent, on ne laisse pas l'œuvre de ton esprit se faire entièrement en nous pour marcher par l'esprit. Alors, viens nous faire grandir, Seigneur, pour que nos cœurs soient portés par la majesté, la beauté, la richesse de l'amour que tu as déployé pour nous en Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.